Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux Imaginales et merci d'être venus assister à cette table ronde, l'imaginaire de la guerre dans la fantasy. On va beaucoup s'attarder surtout sur le Moyen-Âge. Donc nous avons la chance d'avoir parmi nous des historiens de qualité et des auteurs, et de très très bons auteurs sur le sujet. Donc je vais commencer par Justine, qui est juste en face de moi. Vous êtes maître de conférence en littérature française à l'université de Reims-Champagne-Ardennes, spécialiste de médiévalisme et fantasy, notamment pour les œuvres liées au roi Arthur, mais pas que le roi Arthur. On est bien d'accord ?
Parfait.
Ok, très bien. Et vous êtes co-auteur avec Florian Besson d'Une histoire de feu et de sang, le Moyen-Âge de Game of Thrones.
Très bien, je crois même qu'il y a un visuel sur le...
Quelque
qui
part,
est projeté.
Par là-bas.
Voilà, parfait.
Super. Donc ensuite, nous avons Lucie Malbos. Vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'université de Poitiers, spécialiste des mondes du Nord. Vous venez de publier une excellente bio du viking Harald à la dent bleue, l'illustre inconnu qui a donné son nom au Bluetooth. Parmi nous, nous avons Laurent Vissière, l'unique, le grand, professeur histoire médiévale à Angers, spécialiste de la guerre au Moyen-Âge, et vous venez de publier un ouvrage sur le chevalier Bayard qui renouvelle en profondeur la connaissance de ce personnage qui est quasi légendaire. Et vous avez fait un dossier sur le médiévalisme dans la revue Médiévale. C'est bien ça ? Parfait. Et pour terminer... Fabien Cherutti, vous êtes professeur agrégé d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine, adepte de l'étude des évolutions sur le temps long. Vous êtes l'auteur du best-seller Le bâtard de Kosigan, qui vous glissez dans les interstices du Moyen-Âge pour ajouter des éléments fantastiques, pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais je pense que vous l'avez tous lu, il faut absolument les lire.
Ou le relire,
absolument. Et vous avez publié donc un recueil de romans courts il y a quelques mois.
Chez Folio, il est sorti en janvier 2022.
C'est ça. Et ça s'appelle Les secrets du premier coffre, dans lequel on retrouve un pape, une satire, des condottieri. Justement, ça va beaucoup nous intéresser pour cette table ronde. On est quand même dans le monde du bâtard.
Ah oui, on est absolument dans notre monde, donc.
Donc on est tous ici pour parler de fantasy et de guerre au Moyen-Âge. Comme vous le savez, nous les lecteurs, on plonge dans un univers où roi, reine, empereur, impératrice se retrouvent confrontés à des ennemis. Il y a de la guerre, beaucoup, 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 des batailles, des sièges et des duels. L'art de la guerre à la sauce Moyen-Âge, justement, on va pouvoir en discuter pendant une petite heure, est partout et dans toutes les pages de nos œuvres préférées. Nous allons donc aborder ce thème, vaste thème, aujourd'hui. Et je vais commencer par une première question qui est « Le Moyen-Âge et guerre semblent indissociables. » Alors, est-ce selon vous la période historique la plus belliqueuse de l'histoire, si on peut dire ça comme ça ? Je commencerai par le spécialiste de la guerre au Moyen-Âge, Laurent.
Oui, alors comme question pour commencer, c'est terrible parce qu'en fait, la guerre, elle existe depuis que l'homme est là. Est-ce que le Moyen-Âge est plus guerrier ? Probablement pas, mais il y a une forte différence avec notre société, c'est que le Moyen-Âge a pour horizon la guerre, ce qui est un petit peu différent, c'est-à-dire que nous sommes dans une société éminemment guerrière, le roi est un roi chevalier, l'aristocratie est une aristocratie guerrière, c'est-à-dire que son idéal, son éthos, sa pratique, c'est la guerre. La justification de l'aristocratie, c'est que c'est elle qui fait la guerre, qui s'oppose à ceux qui prient et à ceux qui travaillent, c'est-à-dire l'essentiel de la société, ceux qui travaillent. Donc il y a un mythe guerrier et un jeune homme dans l'aristocratie doit faire ses preuves à la guerre. Il doit s'entraîner dans des jeux qui sont avant tout des jeux guerriers, le tournoi qui est une préparation à la guerre. Lorsqu'il chasse, c'est également conçu comme une préparation à la guerre. Et donc, l'horizon de ces hommes est un horizon strictement guerrier et militaire. Et lorsqu'ils lisent ou qu'ils écoutent des livres, eh bien, les héros qu'on leur propose sont des héros guerriers, que ce soit les héros du temps de Charlemagne, les paladins, Roland ou Olivier, ou Charlemagne lui-même, ou Augier. que ce soit les héros arthuriens, Arthur, les chevaliers de la table ronde ou Tristan, les modèles qu'on leur propose sont des modèles de chevaliers, c'est-à-dire de combattants. La guerre est mauvaise, dixit l'Église, mais la guerre est là et on ne peut pas faire sans. C'est-à-dire, oui, c'est une société qui est éminemment plus guerrière que la nôtre, même si lorsqu'il y a une guerre, il y a beaucoup moins de guerres, de morts qu'aujourd'hui. Hein, une bataille médiévale à la fin du Moyen-Âge, s'il y a 6000 morts, c'est considéré comme un massacre épouvantable. C'est le nombre de morts par jour durant toute la durée de la guerre de 14. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Par contre, la guerre est pour nous exceptionnelle, alors que pour eux, elle est plutôt usuelle.
Oui, pour compléter, mais je pense qu'effectivement Laurent a déjà dit tout l'essentiel. C'est vrai que la guerre est présente de toute façon dans toutes les sociétés et dans toutes les périodes. Donc là, on vient d'évoquer la guerre de 14-18, mais si on remonte dans des périodes antérieures, avant et après le Moyen-Âge, j'ai envie de dire, on retrouve aussi des conflits. Si on remonte avant, donc je ne suis pas spécialiste de l'Antiquité, mais on peut penser à la bataille des Thermopyles, qui d'ailleurs a aussi inspiré, de mémoire, je crois que c'est ce qui a inspiré le film 300, il y a quelques années. Donc des grandes batailles importantes. Et si on se situe après le Moyen-Âge, l'époque moderne n'est pas non plus en manque de grandes batailles, que ce soit les guerres de religion, que ce soit les guerres sous Louis XIV, ou soit ensuite les guerres napoléoniennes. Donc je ne suis pas effectivement persuadée que le Moyen-Âge soit une période plus marquée par la guerre, si ce n'est effectivement dans son idéologie.
Alors moi je dirais que curieusement le Moyen-Âge est à la confluence de deux éléments extrêmement importants. Le fait que finalement, en théorie en tout cas, les grandes familles nobles du Moyen-Âge sont les héritières des populations germaniques qui ont petit à petit pris le pouvoir sur l'Occident avec la chute de l'Empire romain et qui étaient des civilisations vraiment purement guerrières, et puis une civilisation plus chrétienne qui est l'héritière de Rome et qui du coup va construire une espèce de mixte étrange avec effectivement des gens formés pour la guerre dès le plus jeune âge. À 7 ans, un jeune noble est envoyé souvent, pas toujours, mais souvent dans une autre famille pour être éduqué à la dure, donc pas par sa propre famille souvent, ou alors par des oncles ou des choses comme ça. Et donc éduqué pour la guerre, mais en même temps à la guerre, on respecte, en tout cas jusqu'à Azincourt globalement, on respecte le chevalier adverse en face, on fait plutôt des prisonniers, on demande plutôt des rançons, on ne cherche pas vraiment à tuer, enfin en tout cas pas toujours. Et donc effectivement la guerre fait beaucoup moins de morts que des guerres dans la période précédente ou dans les périodes postérieures. Et je trouve que c'est intéressant parce que cette civilisation du Moyen-Âge, ça a été un temps particulier avec une civilisation particulière, et pour cela elle est intéressante, je trouve.
Merci. Juste trois mots pour encore compléter, même si vous avez clairement fait le tour. Un des intérêts aussi, enfin une des raisons qui fait qu'on associe facilement Moyen-Âge et guerre, c'est qu'on a énormément de récits qui ont été transmis, même si on pense récemment à la bande dessinée, au cinéma, à la télévision, qui nous représentent le Moyen-Âge presque exclusivement à travers le conflit, à travers la guerre notamment, parce que la narration repose sur le conflit. Pour avoir un récit, il faut qu'il y ait un conflit. Alors un conflit, ce n'est pas forcément une guerre ouverte avec des millions de morts, ça peut être un conflit intérieur, etc. Mais le récit, la narration se construit par l'opposition et par le conflit. Et quand on est au Moyen-Âge, bah, rien de tel que de mettre des scènes avec justement des chevaliers, éventuellement des armées immenses avec des millions d'elfes, de nains et d'orques, hein, si on veut, l'avantage des effets spéciaux. Mais parce que voilà, ça va être du grand spectacle. Donc on va avoir tendance, quand on met en scène le Moyen-Âge, à représenter ce qui va être spectaculaire, et ce qui est spectaculaire, c'est la violence guerrière. Parce que quand on représente le Moyen-Âge avec uniquement un monastère, par exemple, comme dans Le Nom de la Rose, voilà, c'est très bien, mais il faut quand même qu'il y ait un conflit. Donc même dans Le Nom de la Rose, on a des morts et on a on a une enquête qui va se mettre en place, parce qu'il faut qu'on ait un conflit pour avancer. Donc le cinéma, notamment, n'a pas aidé dans cette association de Moyen-Âge et guerre.
Autre chose à ajouter ? Non. D'accord. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez, Fabien, quand on pense à guerre et Moyen-Âge, bien évidemment, on pense à chevalier et à l'idéal chevaleresque que l'on a pu retrouver. Et on les voit, ils émaillent les romans de fantasy. Comment sont-ils représentés en général et finalement, que représentent-ils ces chevaliers? Pourquoi pas?
D'accord.
Pour vous?
Alors, de mon ressenti, j'ai l'impression que justement cet aspect-là est souvent, très limité dans les romans de fantasy. On utilise l'image guerrière et assez peu l'image quelque part entre guillemets, hein, un peu pieuse. Le lien avec la religion est assez peu mis en avant parce que nos sociétés actuelles ne sont pas tellement dans cette mouvance-là et qu'on parle aussi à un public. Et donc, c'est mis souvent un petit peu en retrait par rapport à l'aspect plus guerrier. Il me semble que cet élément-là correspond à une stratégie au long cours de l'Église pour essayer progressivement de restreindre la violence entre les nobles et entre les chevaliers. Et donc, avec la mise en place de règles comme la paix de Dieu ou... je ne sais plus le nom des autres, il y en a trois. La trêve de Dieu, la paix de Dieu, la trêve de Dieu et le droit d'asile, voilà, c'est ça. Et donc, avec le développement aussi de la littérature arthurienne qui évolue vers une littérature qui met en avant le rôle du chevalier, lié avec un idéal spirituel quelque part. Et ça se développe au cours du Moyen-Âge, peut-être même la deuxième partie du Moyen-Âge, hein, ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on voit souvent le Moyen-Âge comme une période figée, c'est une période qui évolue, et qui évolue avec des objectifs souvent positifs, mais qui sont présentés souvent comme négatifs, et à juste titre parfois. Par exemple, le Graal, ça représente plutôt, je pense, la quête des croisades. Et le Graal, c'est un peu Jérusalem, enfin des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt, ça peut être négatif ou positif. Enfin voilà, on a une période qui est en évolution constante, contrairement à ce dont on pourrait avoir l'impression. C'était quoi la question ?
L'idéal chevaleresque.
À l'idéal chevaleresque. Et donc cet idéal chevaleresque s'inscrit dans cette évolution constante du Moyen-Âge, je crois.
Fabien a déjà tout dit, mais effectivement, l'idéal chevaleresque... mais bon, après, moi, à l'origine, je travaille sur le roi Arthur. Donc pour moi, l'idéal chevaleresque, c'est avant tout ce qui est justement mis en avant dans les romans, par exemple, de Chrétien de Troyes. Voilà, c'est l'idéal chevaleresque. C'est... alors... je sais que généralement, quand je dis ça, tout le monde s'attend à ce que je cite Lancelot, le meilleur chevalier. Oui, bah, c'est le meilleur chevalier qui pique la femme de son roi. Donc, niveau idéal, je suis désolée, c'est pas top. Moi, je vais plutôt citer Yvain, le chevalier au lion, parce que c'est mon roman préféré de Chrétien de Troyes, déjà. Mais parce que c'est le chevalier qui va être à la fois dévoué à son roi et dévoué à sa dame. Et ensuite, il va tellement se lancer dans les aventures chevaleresques que pendant un an, il oublie son épouse. Ouais, la relation maritale chez les chevaliers arthuriens, c'est quelque chose de particulier. Mais ce qui fait qu'il va sombrer dans la folie parce qu'il se rend compte que voilà, il a négligé son devoir aussi conjugal. Donc il va sombrer dans la folie et il va devoir se reconstruire et retrouver le sens de cet idéal chevaleresque. Et si vous avez l'occasion, en plus, il y a eu plein de traductions hein, de Yvain ou le chevalier au lion. Ça a été pas tant adapté au cinéma. D'ailleurs, il y a techniquement deux films. Mais il y a plein de versions, même pour la jeunesse, qui existent. Et je trouve que c'est un personnage fabuleux. En plus, il y a une histoire d'amitié avec un lion, ça c'est toujours classe. Mais on voit le personnage qui va essayer de concilier son aspiration religieuse, tout son potentiel guerrier, incarné par justement les combats qu'il va faire aux côtés de ce lion. Lion, figure christique aussi, hein, voilà, il y a beaucoup de choses qui se mêlent à tout ça. Et le côté beaucoup plus personnel de savoir comment être un bon chevalier tout en étant un bon mari et un homme bon aussi. Et ça, c'est une réflexion donc, de Chrétien de Troyes dans la seconde moitié du XIIe siècle. Et ça a une énorme influence sur la façon dont on conçoit les chevaliers tout au long de la seconde partie du Moyen-Âge jusqu'à globalement Thomas Malory au XVe siècle, où là, on voit que c'est la fin hein, de la chevalerie. et que Thomas Malory, lui, va davantage se dire, va s'interroger sur la fin de ce monde chevaleresque avec une certaine nostalgie en se disant déjà au XVe siècle, c'était mieux avant. Même l'idéal chevaleresque, c'était mieux avant le XVe siècle apparemment.
Laurent, quelque chose à ajouter ?
Oui, quand on parle d'idéal chevaleresque dans les œuvres plutôt actuelles, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a parfois la reprise de cet idéal, donc le chevalier en armure qui est le preux, qui défend la veuve et l'orphelin. Donc cet idéal chevaleresque est toujours connu, toujours apprécié, toujours mis en scène. Et puis il y a des réactions. Alors il y a les réactions où au fond ce sont de sacrés hypocrites. Bon, ça commence en effet avec Thomas Malory et repris puisque Thomas Malory influence énormément finalement Martin dans Game of Thrones, des chevaliers qui sont pas si idéaux que ça. Et puis il y a aussi la négation complète. En fait, on veut pas y croire du tout et les chevaliers deviennent des imbéciles dans des boîtes de conserve. Hein. Donc dès lors qu'on entend boîte de conserve, alors il ferraille, il tape dessus, c'est Sacré Graal, c'est évidemment Camelot, comme ça. Et on voit des crétins qui mettent une armure de métal, qui n'arrivent même pas à monter à cheval parce qu'elle est trop lourde, donc il faut les aider avec un palan, ce qui est rigoureusement faux dans la réalité. Même si c'est des brutes, ce sont aussi des athlètes, c'est-à-dire qu'ils tombent de cheval avec leur armure, à condition que l'armure ne soit pas entrée entre les côtes et les ait à moitié tués, ils sont capables de remonter tout seuls à cheval au cours d'une bataille avec une armure qui fait 30 à 40 kilos. Et donc, ils n'ont pas besoin d'un palan pour ça. Mais il peut y avoir en effet cette négation de l'idéal chevaleresque qu'on refuse complètement.
Justement, dans Game of Thrones, on est quand même dans un Moyen-Âge très, 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 très fantasmé et très, 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 très violent. Assez éloigné de cet idéal chevaleresque. Il y a peut-être un contre-exemple ou deux, mais bon, on peut en discuter. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec un Game of Thrones qui va dans ce sens-là et qui va à l'encontre de tout ce que l'on vient de dire depuis 10 minutes ?
Sur Game of Thrones, j'ai toujours des choses à dire. Mais alors, effectivement, parmi les choses extrêmement intéressantes que George Martin fait dans Le Trône de Fer, et donc ce qui a été ensuite adapté par HBO dans la série Game of Thrones, c'est de nous présenter des modèles typiques de la fantasy, et notamment de la fantasy qui parle du Moyen-Âge, pour ensuite les déconstruire, mais extrêmement violemment. C'est-à-dire que... alors, je vais... gâcher un petit peu le début de Game of Thrones. Donc si vous n'avez pas encore vu, vous ne savez pas, c'est le moment de vous boucher les oreilles et de chantonner. Mais il va nous présenter le modèle du chevalier idéal. C'est Ned Stark, c'est Eddard Stark, le seigneur extrêmement noble qui respecte son serment, qui va jusqu'à ruiner une partie de sa famille pour pouvoir respecter un autre serment qu'il a fait. Enfin, voilà, c'est l'incarnation de l'honneur. Et George Martin nous montre, voilà votre modèle de chevalier idéal, vous rêvez qu'il devienne roi, ben, ça va être compliqué s'il n'a plus de tête. Donc voilà, c'est une façon de montrer, mettre en avant les modèles de cet idéal chevaleresque pour montrer que là on est dans un autre monde, là on est dans quelque chose où ça ne va pas se passer dans un monde de bisounours. Les chevaliers sont des tueurs, hein, c'est une phrase qui est reprise plusieurs fois, et notamment par le personnage du limier, hein, The Hound, qui rappelle que les chevaliers sont avant tout, justement, une aristocratie guerrière. Ils sont là pour tuer, ce qui, dans l'esprit de George Martin, va toujours avec le corollaire, ils sont là pour violer aussi. Hein. C'est généralement, l'un ne va pas sans l'autre, parce que ce sont des personnages charmants. Et ça a été présenté, pas tant par Martin, mais surtout par HBO et par les créateurs de la série, comme une représentation réaliste du Moyen-Âge. Encore une fois, non. Voilà. Mais effectivement, ça s'appuie sur tout ce qu'il y a de plus négatif dans cet idéal chevaleresque, tout ce qu'on ne veut pas voir, oui, ce sont des guerriers, mais derrière l'armure rutilante, il y a effectivement des assassins. Donc, c'est une façon de mettre en avant l'envers de cet idéal en le détournant au maximum pour montrer justement toute sa violence. Et c'est une façon aussi d'exorciser nos propres pulsions pour ce spectaculaire macabre en mettant en scène... Eh ben, voilà, des personnages décapités, je ne vais pas citer toutes les tortures qu'il y a dans Game of Thrones parce qu'on est là pendant un moment, puis c'est l'heure du repas. Donc c'est, voilà. Mais voilà, c'est une façon aussi de jouer avec nos attentes. Vous voulez un idéal chevaleresque, voilà, je vais vous montrer l'envers du décor et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si sympa cet idéal.
Oui, et je pense qu'effectivement, il faut aussi distinguer, Justine l'a un petit peu dit, mais l'œuvre de George Martin et la production visuelle de HBO. Oui. Une fois que c'est porté à l'écran, ça prend une dimension qui est tout autre. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont tout inventé, l'œuvre de George Martin est déjà très sombre, très violente, mais j'ai envie de dire qu'ils en ont remis une couche en inventant même certaines scènes. Hein, de mémoire, il y a quelques viols et quelques en plus qui n'étaient pas chez George Martin. Oui, il en manquait, justement, il n'y en avait pas assez, donc on en a remis un petit peu plus. Et puis, il y a vraiment toute la dimension visuelle aussi hein, qu'on a. Alors, dans une œuvre écrite, ça peut être très violent, mais ça va être fonction un petit peu de votre imagination aussi. À partir du moment où c'est porté à l'écran, on le voit dans toute sa cruauté, en fait. Et je pense que c'est aussi un peu la marque de fabrique de HBO qui a commencé de mémoire avec Rome et qui là aussi avait cassé un certain nombre de mythes, d'attendus et où on avait aussi déjà, au début des années 2000 je crois, Rome c'est 2004 ou 2005, quelque chose comme ça, on avait déjà quelque chose de très violent, alors dans un univers complètement différent, cette fois-ci on est dans l'Antiquité et on est dans l'Antipéplum. Et donc c'est déjà un petit peu la façon de fonctionner de HBO. Donc je pense que Game of Thrones, oui, mais il y a aussi la production visuelle derrière.
Alors, une courte question sur les boîtes à conserve pour Laurent, par rapport à tout ce que l'on peut voir à la télévision, au cinéma, les armures qui sont percées par une flèche, ça se passe comment normalement ?
En fait, ça dépend des époques. C'est-à-dire que jusqu'au XIVe siècle, une flèche peut en effet percer une cotte de maille. Mais on voit apparaître en fait des armures à l'épreuve à partir du XIVe siècle. Donc c'est de plus en plus difficile. Et donc, en réalité, les flèches ne sont pas faites pour tuer des chevaliers, elles sont faites pour tuer des chevaux. Ce qui est complètement différent, c'est-à-dire elles sont faites pour blesser, pour abattre le cheval, et le chevalier dans sa boîte à conserve, il tombe avec le cheval, et en général, il est bloqué sous le cheval. Il faut apprendre à tomber d'un cheval, ça fait partie de l'éducation chevaleresque, éviter de tomber sous le cheval. Mais même lorsqu'on tombe pas sous le cheval, il y a les copains qui passent dessus, et la plupart des chevaliers, dans des combats comme Crécy, ne meurent pas en fait de flèches, mais piétinés par leurs propres copains, qui leur sont passés dessus. Et le principe du sabot d'un cheval, lorsqu'il s'enfonce sur une plaque d'armure, c'est qu'il enfonce le métal dans le corps du type. Donc ces gens sont hachés menus par leurs propres armures et par les sabots. C'est plutôt ça le problème. En réalité, les armures sont elles-mêmes extrêmement efficaces et elles vont le rester jusqu'au XVIe siècle. Parce qu'on a toujours dit bêtement que Crécy ou Azincourt, c'est la fin de la chevalerie, mais c'est totalement faux. La fin de la chevalerie, c'est la bataille de Pavie, 1525, c'est l'arquebuse. L'arquebuse, c'est derrière l'artillerie mobile, portative, individuelle, qui se recharge vite, met fin à la chevalerie. C'est ni les flèches, ni les canons, parce que les canons sur un champ de bataille, de toute façon, il faut 2 heures pour le recharger. Donc, on a eu le temps de faire autre chose entre. Le premier tir, et puis il faut être con pour charger contre de l'artillerie. Surtout que le canon ne se déplace pas, donc il suffit de le tourner. Les seuls à avoir chargé contre l'artillerie, c'est les Anglais à Castillon, 1453, et c'est cette charge absolument magnifique qui permet de mettre fin à la guerre de Cent Ans, parce que lorsque vous avez 8000 hommes qui chargent contre 300 canons qui tirent à mitraille, et bien ensuite, on ne compte même plus les morts, on ne les voit plus, ils sont hachés menus. Et ça met fin à une guerre, donc ça c'est pratique. L'armure est efficace en fait jusqu'au début du XVIe siècle, et si la chevalerie se plante par moment, c'est juste qu'elle est mal employée. C'est-à-dire que c'est des erreurs tactiques, c'est pas des erreurs d'équipement.
Alors on parlait de chevaliers, d'archers, mais il y a aussi ces bandes de mercenaires qui existent au Moyen-Âge et que l'on retrouve dans votre œuvre. Fabien, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ces mercenaires ? Qui sont-ils ? Que font-ils ? Comment marchent-ils ? C'est une question de pognon, c'est ça ?
L'argent, le nerf de tout, de la guerre et de tout. Le bâtard de Cossigan a été formé en Italie en tant que comte d'Authière au service de Della Scala, et puis petit à petit il s'est arrangé pour monter pour améliorer sa position dans la compagnie, dans la Condotta, D'ailleurs, le début de ses aventures se situe aux alentours de Florence, au moment d'une guerre avec Sienne, et où on voit que son patron change au moins deux fois de camp dans l'histoire. Lui-même se retrouve perdu derrière les lignes ennemies et obligé de faire semblant avec quelques hommes d'être un jouteur un peu aguerri pour essayer de passer entre les gouttes et d'esquiver les recherches de ses ennemis. Enfin, voilà. Et donc, petit à petit, il a monté une compagnie, mais un peu différente, parce que en Italie, les compagnies de condottieri étaient des compagnies de combat avec énormément d'hommes et servaient finalement d'armée pour toutes les guerres entre les cités italiennes. Et lui va monter une compagnie particulière qui a un volet compagnie de combat, mais qui a aussi un volet qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'espionnage, ce qui est assez rare à l'époque en réalité. Hein. Mais même si à partir, me semble-t-il, du XIIIe siècle, on commence à avoir des personnes qui servent un peu d'espions. Mm-hmm. Donc là, ça va un peu plus loin, évidemment, c'est romancé. Mais il a monté cette compagnie d'espionnage qui se vend aux plus grandes maisons d'Europe pour régler leurs problèmes de manière discrète et efficace, comme manipuler l'Église, faire tomber des royaumes, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un condottiere d'élite, on va dire, vraiment très très particulier. Il est rarement sur le terrain pour combattre, mais il est plutôt dans les cours, dans les châteaux. Il passe du Saint-Empire à l'Angleterre, à l'Italie, à la Bourgogne, etc. Et c'est dans la réalité, ces mercenaires, notamment au moment de la guerre de Cent Ans, sont de plus en plus nombreux. Beaucoup de gens sont des routiers qui ont été laissés, qu'on a arrêté de payer, et donc qui sont moitié mercenaires, moitié bandits. Il me semble que on a essayé de les envoyer en Espagne à un moment avec à la suite de Duguesclin a essayé de rallier ses compagnies de mercenaires pour les amener en Espagne et puis voilà, essayer de s'en débarrasser. Ça n'a pas bien marché. Enfin voilà, à un moment, au début, c'était une variable très utile, les mercenaires, et puis petit à petit, ils deviennent très ennuyeux et très dangereux. Et voilà, donc moi, ma compagnie de mercenaires est dirigée par un grand noble d'une très grande famille de Bourgogne, mais bâtard. Donc c'est ce qui l'a orienté vers le mercenariat.
Donc tout le Moyen-Âge aussi, on est guerrier, mercenaire, chevalier. Il y a toujours une épée quelque part, et l'épée est l'arme qui revient tout le temps, d'une manière ou d'une autre, en fantasy, parce que la période le veut. Elle est magique, elle est ultime, dans le sens où elle va vaincre l'ennemi final. Elle a donné son nom au genre Sword and Sorcery. Excalibur, Arthur, il y en a tellement d'autres, Stormbringer, Andúril, etc. Comment expliquer ce statut si particulier de cette épée que l'on retrouve partout, que ce soit même en histoire où elles sont... Et d'ailleurs, il y a la question du nom. Pourquoi donne-t-on un nom à une épée ? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots les uns et les autres par rapport à ce sujet-là ? Je commencerai bien évidemment par Justine, puisque bon, quand on parle d'Arthur, pas faire autrement que
évidemment.
Ne pas...
Merci. Je vais revenir sur la question du nom. La question du nom, on donne un nom à une épée pour donc, la personnifier, pour aussi valoriser son pouvoir. Hein. Ce n'est pas un simple objet, ça devient quelque chose d'unique. Mais dans les textes arthuriens, ce n'est pas quelque chose qui est réservé que aux épées. Quand on prend l'histoire des rois de Bretagne, par exemple, de Geoffroy de Monmouth, donc un texte en latin du XIIe siècle, on sait que le roi Arthur a son épée, alors qu'il s'appelle Caliburn, ce qui deviendra Excalibur hein, au fil des réécritures. Mais on sait aussi qu'il a une lance et qu'il a un bouclier et qu'ils ont des noms. Alors je les confonds toujours, je crois que la lance c'est Ron et que le bouclier c'est Pridwen. Voilà, mais donc il y a des noms pour ces différentes armes. Et quand on lit d'ailleurs un Geoffroy de Monmouth, et promis, c'est la dernière remarque que je ferai sur la place des femmes, on a des commentaires qui nous disent que parmi les possessions d'Arthur, ce qu'il préfère, il y a donc son épée, sa lance, son bouclier, son chien et sa femme. Dans cet ordre. Voilà. Débrouillez-vous avec cette information. Mais donc c'est une façon aussi de glorifier les armes qui deviennent des compagnons de combat du personnage, enfin de, donc là en l'occurrence d'Arthur, et au fur et à mesure des réécritures de la légende arthurienne, c'est cette épée unique Excalibur qui va devenir vraiment l'incarnation de tout le règne arthurien, sachant que chez Chrétien de Troyes par exemple, c'est pas Arthur mais c'est Gauvain, que son neveu, qui la porte. Alors si vous connaissez Gauvain uniquement à travers la série Kaamelott, je salue Aurélien Porteau au passage, mais dans les textes, si je ne vous cache pas qu'il est beaucoup plus épique. Hein. C'est le chevalier solaire, son pouvoir grandit en même temps que le soleil, en fait. Voilà, donc jusqu'à midi, il est épatant, et plus ça va, plus il fatigue. Mais donc voilà, c'est aussi Gauvain qui porte Excalibur, mais parce qu'on a l'idée que cette épée est tellement exceptionnelle qu'elle ne peut être portée que par des guerriers exceptionnels. Donc on va avoir une association sans cesse entre le héros et son arme. Donc on a Arthur et Excalibur, mais on va avoir Charlemagne et Joyeuse. On va avoir après Durandal et Roland. Et on peut continuer. Hein. Voilà, on a des épées qui n'ont pas toujours de nom. Mais si je vous parle de Geralt, le sorceleur de The Witcher, là on sait qu'il n'a pas une, mais deux épées qui sont exceptionnelles. Donc plus ça va, plus on multiplie. J'ai hâte de voir le jour où on aura un chevalier connu pour ses 50 épées. C'est jamais un peu de science-fiction, quelqu'un qui aurait plein de bras, ça peut être sympa. S'il y a un auteur de fantasy ou de science-fiction dans la salle, vous savez quoi écrire pour la suite.
Moi, les épées sont en métal. pour l'instant, il n'y a pas d'épée exceptionnelle dans ma série. Les armes sont banales, mais surtout très efficaces. C'est ce qu'on leur demande principalement. En revanche, j'ai une deuxième ligne temporelle qui se situe au 19e siècle avec un descendant du héros qui cherche à savoir si justement tous les éléments un peu légendaires, un peu mythiques qu'on trouve dans les textes du Moyen-Âge, si, il enquête pour savoir si ces éléments mythiques pouvaient avoir un fond de vérité et notamment si la thaumaturgie pouvait exister au Moyen-Âge ou des choses comme ça. Et donc lui s'interroge par contre sur certaines épées, certaines armes qui ont pu exister, mais à l'époque qui précède le bâtard de Kosigan. Donc il enquête un petit peu là-dessus dans l'un des tomes de ma série. Mais là-dessus, il n'arrive pas à trouver vraiment de choses vraiment solides dans ce domaine. Donc voilà, c'est voilà, sans doute.
Absolument. Laurent, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter sur les épées?
Oui, alors l'épée, c'est ce qui fait le guerrier. L'épée, c'est la première arme. Toutes les autres armes sont l'arc ou les pieux ou le couteau, sont des choses qui peuvent être utilisées pour la chasse ou pour la vie quotidienne. L'épée est la seule véritable arme, c'est-à-dire que dès lors qu'on trouve une épée dans une tombe, on sait que c'est un guerrier qui est là. L'épée n'est faite que pour la guerre. On n'utilise pas l'épée pour chasser le sanglier ou pour couper du saucisson. Donc c'est ça qui est important et ce qui fait que le vrai guerrier a une épée et il n'a pas une autre arme. Ou exceptionnellement, et s'il a une autre arme, on va expliquer pourquoi. Et le fait qu'il y ait un compagnonnage avec l'épée explique le nom dans un schéma qui est plutôt extrêmement archaïque. À la fin du Moyen-Âge, à ma connaissance, les épées ne portent plus de nom, mais si on donne des noms à des armes, désormais, c'est au canon. Les premiers gros canons portent tous un nom et sont baptisés, comme les cloches.
Alors, dans cette guerre et ce Moyen-Âge, qu'en est-il de la place des femmes? Des femmes chevaliers? On peut penser à Brienne de Torff aussi. Enfin, justement, je n'ai rien dit tout à l'heure, je me suis dit, bah, si, on va quand même en parler encore un petit peu. Quelqu'un veut commencer? Non, pas sur Brienne, mais sur les
femmes guerrières.
Alors, notamment chez les Vikings, par exemple.
Notamment chez les Vikings, oui. Et ça va me permettre de faire le lien avec ce que disait Laurent et les épées. Je suis pas tout à fait d'accord qu'à partir du moment où on trouve une épée dans une tombe, c'est nécessairement un guerrier. Mais donc effectivement, c'est
symbolique.
Voilà. Alors, en fait, je repars sur l'épée, puis je réenchaîne sur les femmes. L'épée, c'est et dès le Moyen Âge, c'est un symbole. Effectivement, c'est un symbole c'est un instrument de mort, de combat, mais c'est aussi un symbole statutaire. Et là, je rejoins parfaitement ce que Laurent disait tout à l'heure. Hein, on a des élites qui sont des élites guerrières, et donc à partir du moment où on porte l'épée, c'est qu'on fait partie de cette élite. Donc une épée dans une tombe, c'est un symbole statutaire. Après, est-ce que la personne qui est enterrée avec l'épée a nécessairement manié l'épée sur le champ de bataille? Ça, c'est une autre question. Et c'est toute la problématique de l'interprétation des données funéraires. Quand on place un objet dans une tombe, ça devient un symbole. Ça n'est plus nécessairement un objet qui a une, ça n'est plus un objet qui a une dimension pratique. Et j'en arrive effectivement aux femmes guerrières, puisque c'est la problématique qui s'est posée pour la fameuse tombe de Birka, où il y a non pas seulement une épée, effectivement, hein, mais aussi pointe de flèche, lance, bouclier, et où la question qui s'est posée de suite, quand on a fait les analyses ADN et qu'on en a conclu que c'était une femme et non pas un homme, comme on le pensait jusque-là, la conclusion qui en a été tirée, c'est donc ça n'est pas un guerrier, c'est une guerrière. Et c'est vrai qu'il y a quelques voix un peu discordantes qui se sont élevées en disant « Ah, mais c'est peut-être un peu plus compliqué, on est dans du funéraire. » Et donc, il y a eu un jeu de ping-pong, et donc, nouvelle réponse, « Ah, ben, à partir du moment où, tant que c'est un homme, c'est forcément un guerrier, et à partir du moment où le personnage change de sexe, ben, il faut aussi qu'il change de fonction, ça ne peut plus être une guerrière, donc pourquoi si c'est un homme, c'est un guerrier, si c'est une femme, c'est pas une guerrière ?» Ok ? On peut aussi reprendre la question dans l'autre sens et dire, puisque si c'est une femme avec une épée, ça n'est pas nécessairement une guerrière, un homme avec une épée n'est peut-être pas non plus nécessairement toujours un guerrier. Et ça symbolise peut-être aussi autre chose, et notamment ses fonctions dans la société. Et donc ces femmes guerrières, et notamment en Scandinavie, donc je sais qu'en ce moment ça fait beaucoup, beaucoup fantasmer, et notamment grâce aux productions qui ont été portées à l'écran, et notamment la série Vikings, mais pas seulement. C'est une question qui fait débat, qui est assez, assez épineuse, et on n'est pas tous d'accord sur le sujet. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a très, très peu de traces qui permettent vraiment d'affirmer que des femmes se sont battues. Donc s'il y en a, il y en a probablement eu, mais c'est une part infime hein, de la population. Il y a probablement des femmes qui ont alors combattu, et qui ont probablement été des combattantes, pas nécessairement des guerrières, c'est pas tout à fait la même chose. Le combattant, c'est celui qui peut être amené à prendre les armes, mais pour se défendre aussi, hein, pour défendre sa famille, sa ferme. Le guerrier ou la guerrière, c'est celui qui fait de la guerre, et on y revient, hein, son activité principale. Donc c'est deux choses très différentes. Donc que des femmes aient été amenées à se défendre, à défendre les leurs, j'en suis quasiment convaincue. Qu'elles aient fait de la guerre leur activité principale première, j'ai plus de doutes, du moins pour la majorité d'entre elles, je suis même sûre que non.
Juste pour rappeler que l'épée ne fait pas nécessairement le guerrier, je rappelle que lorsqu'ils sont investis à l'Académie française, les académiciens reçoivent une épée aujourd'hui. Voilà. Donc, à vous de visualiser si nos académiciens actuels sont des guerriers. Je vous laisse juger.
Alors.
Et donc, dans 3 siècles, quand on va réouvrir, ou 5 siècles, quand on va réouvrir la tombe et on verra l'académicien enterré avec son épée, on en conclura que, voilà, que Jean d'Ormesson était un grand guerrier.
En dehors de la question des femmes guerrières chez les Vikings, Laurent, les femmes chevaliers, est-ce que c'est quelque chose qui existait ? Parce que, bon, je parlais tout à l'heure de Brienne dans Game of Thrones, mais là, si on revient dans l'histoire. Est-ce qu'on a des exemples concrets de femmes chevaliers, guerrières ?
Oui, en fait, c'est le problème des termes. Dans les fantasmes médiévaux, oui, on a les 7 preuses, comme il y avait les 7 preux, donc des femmes soi-disant équipées de manière chevaleresque. On a en effet occasionnellement des femmes qui peuvent prendre les armes, qui sont des chasseresses, qui savent manier... Des armes comme un arc, mais qui manie l'épée et l'écu, ça, à mon avis, c'est déjà beaucoup plus rare. Et on le voit dans des circonstances exceptionnelles. Alors, bien sûr, on peut penser à Jeanne d'Arc, mais c'est totalement hors norme. Et d'ailleurs, elle ne se présente pas comme chevalier, mais comme chef de guerre, ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire un statut militaire et pas un statut de chevaleresse. Hein, c'est un statut militaire, elle est chef de guerre, certes. Elle a une épée, mais elle s'en sert surtout pour chasser les prostituées du camp en tapant sur leur dos du plat de l'épée qu'elle casse. Hein, donc, elle ne sait pas s'en servir vraiment. Et si elle brandit une épée, c'est plutôt en signe de ralliement. Hein, c'est tout à fait particulier. Et puis, on a le rôle des femmes pendant les sièges de ville. Lorsqu'une ville est assiégée, toute la population est mobilisée, y compris ceux qui ne combattent pas, c'est-à-dire les femmes, les ecclésiastiques, les enfants et les vieux. Et tout le monde a un rôle à jouer. Alors, que font les femmes en temps de siège ? Essentiellement, d'abord, il y a la question de l'arrière, c'est-à-dire qu'elles rafraîchissent les hommes en leur apportant à manger, à boire, en les soignant, ce qui est le rôle traditionnellement dévolu des femmes à la guerre. Ensuite, on les voit sur les remparts dans un service de guet, c'est-à-dire qu'elles surveillent, parce que parfois on a besoin de tout le monde, et parfois statutairement, on sait qu'à telle heure, ça va être des femmes qui vont faire, parce qu'il n'y a pas assez d'hommes pour ça. Des femmes, des curés, des moines, alors tout le monde proteste mais au travail. Et on a un cas comme Jeanne Hachette à Beauvais qui est resté célèbre, mais lorsqu'on étudie l'histoire de Jeanne Hachette, qui est une femme qui a réellement existé, d'abord elle n'a jamais eu de Hachette, la Hachette elle a été rajoutée au XVIIe siècle pour faire mieux, mais on est quand même fin XVe, et ce que l'on voit dans les textes, c'est qu'elle se trouve sur le mur lorsqu'il y a un assaut bourguignon visiblement surprise, on ne l'a pas anticipé, et tout à coup, elle voit un mec qui apparaît au rempart en brandissant sa bannière. Donc, il est au sommet d'une échelle qui doit faire 6 mètres de haut. Il tient l'échelle d'un côté et la bannière de l'autre. Elle lui arrache la bannière et elle le déséquilibre. Donc, le mec tombe probablement en criant, mais ça, ce n'est pas dit. Et elle récupère la bannière et on en fait une héroïne. Mais Jeanne Hachette n'a même pas d'armes sur les remparts. Elle est là juste pour faire le guet et elle le fait bien. Là, pour le coup, elle a été efficace. Et éventuellement, ce qu'on peut demander aux femmes, alors pour les amateurs d'histoire du genre, c'est super, qu'est-ce qu'on peut demander comme travail spécifiquement féminin aux femmes sur un rempart ? Eh bien, de préparer les chaudrons d'eau chaude et d'huile, parce que faire bouillir de l'eau, faire bouillir un chaudron est une activité spécifiquement féminine. Donc, on ne voit pas ces types avec leur boîte de conserve. Ils ne sont pas foutus d'allumer le feu sous un chaudron. Ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est les nanas qui le font. Et donc, elles allument le feu, elles alimentent le feu, elles mettent l'huile, la fameuse huile bouillante qu'on ne verse pas comme ça, mais qu'on verse dans des espèces de poêles à pizza. Et ensuite, on envoie des gouttelettes brûlantes sur les... Ce sont les femmes qui le font. Et ça, c'est dit... on dit bien dans le mystère du siège d'Orléans, dites aux femmes de préparer les chaudrons d'huile, c'est toujours les femmes qui le font. Et ensuite les Anglais se retraitent en disant, maintenant on sent le poisson parce qu'ils ont eu de la friture sur le dos. Et ça c'est spécifiquement féminin.
Alors moi donc j'écris des romans et alors dans mes romans il arrive qu'il y ait des chevalières, quelques-unes, elles sont rares, c'est un choix qui est difficile dans une société plutôt évidemment patriarcale et très très patriarcale où les rôles sont bien définis et bien partagés. Mais il y en a quelques-unes qui sont dans cette optique-là. Il y a aussi évidemment, on parlait de chefs de guerre, il y a aussi des chefs politiques, hein, comme la comtesse de Champagne qui, devenant veuve, acquiert finalement une place et un pouvoir assez extraordinaire et qui, du fait de son veuvage tout simplement, est beaucoup plus libre que beaucoup d'autres femmes de son temps. Et est capable de faire des choix qui lui sont propres, et y compris sexuellement ou autre, parce qu'à l'époque, le statut de veuve était un statut assez particulier qui ouvrait de grandes perspectives. Je me demande si certains hommes ne sont pas morts dans leur lit bêtement. Mais bon, on ne sait pas. Donc c'est vraiment un roman, c'est-à-dire que l'un des lieutenants du bâtard est une jeune femme, une change-sang, c'est-à-dire elle a des pouvoirs, elle est capable de modifier son apparence physique au prix d'efforts assez extraordinaires, parce qu'elle fait partie d'une des branches des races anciennes qui existent encore dans cette fin de Moyen-Âge, enfin dans ce 14e siècle un peu fantasmé. Dans lequel l'Église n'a pas encore tout à fait réussi à faire disparaître la totalité des races anciennes et de la magie. Donc voilà, la place des femmes finalement dans mes romans est proche, mais accentuée encore par rapport à ce qu'elle était elle était, je crois, au Moyen-Âge.
Alors, une dernière question qui s'adresse un peu à vous, Lucie, c'est la question de... Donc, on parle de guerre, on parle de violence, et on parle surtout de, en ce moment, tout le temps, ça fait un petit bout de temps, des Vikings, c'est non-stop. Ils sont partout, ils n'arrêtent pas, ça fait plusieurs années. Et ils sont super violents, systématiquement. Ça réfléchit pas, ça tape. Votre sentiment là-dessus ?
Oui, alors effectivement, c'est quelque chose qui est ancien et on a hérité cette vision en grande partie de nos sources et de nos sources occidentales, puisque les récits de ces fameux raids qui ont déferlé sur le monde occidental au 9e et au 10e siècle sont en grande partie issus des scriptoria, donc des ateliers de copies, des monastères, sont des productions d'hommes d'église, d'hommes de Dieu, et très souvent de ceux qui sont parmi les premières victimes et qui racontent vraiment sous le jour le plus noir ce qu'ils ont vécu ou ce que leurs frères ont vécu, et donc nous transmettent cette vision très, très sombre. Il ne s'agit pas du tout de minimiser cette violence, mais en fait de la remettre aussi un petit peu en perspective. On a l'impression que finalement ces vikings, ces hordes de barbares hurlants qui déferlent sur le monde occidental sont beaucoup plus violents que les occidentaux à la même époque, et c'est là en fait que cet effet de source et ce prisme jouent. C'est-à-dire que dans les sources occidentales, on va accentuer la violence de ces barbares, et inversement, on va minimiser ou passer sous silence une partie de la violence occidentale. Les guerres de Charlemagne en Saxe, la conversion de la Saxe s'est faite, mais dans le feu, le sang et par le fer. Et Ginard, qui est le biographe de Charlemagne, nous rapporte, alors je ne sais pas si c'est authentique, mais en tout cas nous rapporte un proverbe byzantin, nous dit-il, qui circulait à l'époque et qui disait « Et le franc pour ami, pas pour voisin ». Ça veut tout dire. Et je pense qu'effectivement, il y a cet effet de source, et il y a aussi un autre phénomène qui joue, c'est que les Vikings, ou les Scandinaves, peu importe le nom qu'on leur donne, ne font pas la guerre selon les mêmes règles, selon les mêmes codes que les Occidentaux, ou du moins ne respectent pas les codes des Occidentaux, et je pense en particulier à quelque chose qu'on ne fait pas quand on est un bon chrétien, c'est attaquer des lieux saints et des lieux sacrés. Et donc, effectivement, les Vikings attaquent en priorité les églises, les monastères, mais non pas parce que ce sont des barbares qui foncent dans le tas sans réfléchir, parce qu'au contraire, ils ont parfaitement réfléchi. Ils ont très bien compris que c'était des super opportunités, parce qu'il y avait quand même quelques richesses, quelques reliquaires, quelques objets précieux. Et c'est super parce qu'il n'y a personne pour les défendre. Et bien entendu qu'il n'y a personne, puisqu'on n'est pas censé attaquer ces lieux. Et Dieu est censé veiller sur le monastère ou sur l'église. Et ils vont même encore plus loin. On a plusieurs récits qui nous racontent qu'ils aimaient beaucoup attaquer le jour de Pâques. Donc ils avaient ciblé dans le calendrier les jours où ils savaient que tout le monde était à l'église pour célébrer justement les événements du calendrier chrétien. Et ils en profitent soit pour attaquer l'église où tout le monde est dedans et faire un carnage, soit pour aller attaquer juste à côté pendant que tout le monde est à l'église et qu'on ne peut pas défendre les autres lieux. Donc ils connaissent parfaitement les codes du monde chrétien, du monde occidental, et ils en jouent, ils ne les respectent pas. Et c'est ça qui est inacceptable aussi aux yeux des hommes d'église et aux yeux des contemporains des Red Vikings. Et nous, on fait l'histoire des Red Vikings, alors on essaye maintenant de s'en détacher un petit peu plus en se tournant davantage vers l'archéologie, vers d'autres sources, mais on a démarré là-dessus. Et donc on a pris au pied de la lettre, mais ce qui est normal aussi, enfin, on a lu ces récits. Et de plus en plus, on essaye de s'interroger et de voir un petit peu l'envers du décor et se dire, ok, il y a ça dans ces récits, mais qui me raconte ce texte? Dans quel objectif? Dans quel contexte? Et je vais essayer d'aller un petit peu au-delà de ça et finalement de dire, ok, les Vikings étaient violents, mais peut-être que finalement, les Francs de l'époque de Charlemagne l'étaient tout autant.
Et je trouve qu'il y a notamment une chose, c'est dommage qu'on ne l'ait pas transmis dans notamment toutes les représentations sur les Vikings, mais on a une source notamment qui nous dit que quand ces fameux Vikings commencent à s'installer un peu plus, notamment sur l'île britannique, enfin en Angleterre, on a un texte qui nous dit qu'ils sont dangereux pour la population, mais pas tant pour la violence, on va dire, au quotidien, mais parce qu'ils prennent énormément soin d'eux, ils sont très propres, et ils ont des cheveux soyeux et luisants, et donc c'est dangereux pour les femmes, parce qu'ils vont séduire les femmes anglaises sur place. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas gardé cette représentation du Viking... voilà, propre et soyeux. Aujourd'hui, on veut nos Vikings dans la crasse. Voilà l'Auréliane, exactement.
Il y avait des dents bleues en plus.
Voilà, le fameux Harald à la dent bleue.
Juste la ultime question, Harald à la dent bleue, qui... ça sort d'où cette histoire ?
L'histoire de la dent ?
Ouais.
C'est une bonne question.
En une minute.
En fait, ça sort d'un texte du XIIe siècle. Donc, on est longtemps après Harald. Hein. Harald meurt à la fin du Xe. Et donc, deux siècles plus tard, il y a un chroniqueur qui sort un terme qu'on a traduit de cette façon, mais sans être bien certain de la traduction. Ce qui est absolument sûr et certain, c'est qu'à l'époque de Harald, aucun de ses contemporains ne l'a appelé Harald à la dent bleue. Et pour la petite anecdote, alors il était surtout appelé probablement, selon la tradition scandinave, hein, Harald Gormson, c'est-à-dire Harald, fils de Gorm. Et une de ses épouses, une dénommée Tofa, a fait ériger une pierre runique à la mémoire donc, d'un autre personnage et dans laquelle elle se présente comme Tofa, l'épouse de Harald le Bon. Et on n'a pas gardé l'image de Harald le Bon. Ça fait moins viking.
Ça fait moins viking. Bon, merci beaucoup. Alors, il nous reste encore 5 minutes pour des questions, si vous en avez dans la salle.
Est-ce qu'il y a un micro-baladeur ?
Il y a un micro-baladeur ?
Il va falloir parler fort.
Bah, on a pas de micro, enfin priez. Mais essayez okay. Comme ça. Je...
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais la majorité de la population, elle est totalement invisible dans nos sources. En fait, on fait aussi l'histoire à partir des sources et c'est un effet de source. La majorité de nos sources, alors quand je dis la majorité, c'est 95% hein, de nos sources, parle de l'élite, et donc de cette élite notamment guerrière, que ce soit les sources textuelles ou même les sources archéologiques. Hein, on évoquait rapidement les tombes. La tombe que je mentionnais tout à l'heure, c'est une tombe exceptionnelle. Un individu lambda n'est pas enterré avec une épée, des pointes de flèche, des pointes de lance, les restes de deux chevaux et j'en passe. La plupart des tombes sont quasiment vides, où il y a un petit couteau, un bout de peigne, enfin pas grand-chose. Et donc on fait aussi l'histoire à partir de ces sources-là. Et donc la majorité de la population, toute cette piétaille qui se fait effectivement massacrer, eh bien, ne nous a pas laissé de traces et ne nous a pas laissé de traces nominatives à plus forte raison. Donc effectivement, mais c'est un effet de source. Alors,
non, vous avez raison. Alors j'en profite et c'est là que la littérature sert aussi à combler les manques de l'histoire. Et il y a plein de romans qui justement abordent ce sujet-là et je vous renvoie notamment parce que justement c'est mon côté monomaniaque Roi Arthur. Je vous renvoie à un roman de Terence Henry White, T.H. White, qui s'appelle The Once and Future King, donc le roi d'hier et de demain, ça dépend de la traduction qui a été faite en français. C'est un roman sur le roi Arthur, de son enfance à sa disparition. Et on voit toute l'éducation d'Arthur et on voit le cheminement de ce roi qui prend conscience que la guerre, ce n'est pas cet idéal, la guerre, ce n'est pas la beauté des chevaliers qui, eux, ne souffrent quasiment pas parce qu'ils sont protégés et parce que, justement, on est juste sur des histoires de rançon, mais que la guerre, c'est aussi cette violence qui touche les populations. Et donc, voilà, White fait une très belle description de ce cheminement du personnage. Il faut savoir aussi que White écrit pendant la Seconde Guerre mondiale et que, donc, il a cette conscience aussi qu'il applique au Moyen-Âge. Mais donc, je vous conseille ce roman qui est fabuleux.
Oui, et puis en fait, on a quand même parlé de la guerre de siège. La guerre de siège, c'est la communauté urbaine qui est assiégée. Là, on a des sources, on a des journaux. Pour ce qui est de la question des civils, vous parliez de la piétaille, mais c'est surtout la civile, c'est une idée extrêmement moderne que la guerre ne doit pas faire de victimes collatérales. La guerre, dès les origines, ne fait que des victimes collatérales. La guerre est toujours faite contre les civils. L'idéal dans la guerre, c'est de piller, de violer, de détruire. Donc, ce que l'on voit dans les textes est écrit pour des élites, c'est plutôt les hauts faits, les beaux gestes. Mais à la fin du Moyen-Âge, il y a quand même un intérêt accru pour les populations civiles, parce qu'il y a beaucoup de chroniqueurs qui sont issus du monde des villes, déjà, donc qui sont plus sensibles à ces questions-là. Et ils s'en plaignent. Et c'est aussi à la fin du Moyen-Âge que l'élite aristocratique souffre le plus, parce que justement les techniques de militaires changent, notamment avec l'arrivée de l'arme à feu, avec des fortifications beaucoup mieux défendues. Et donc, il y a beaucoup plus de victimes dans les rangs aristocratiques qui, jusqu'au XIIIe siècle, finalement, ne souffraient pas trop. Mais ça change entièrement au XIVe siècle. Hein.
Et moi, je vous conseille le livre de Fabien Cerutti. Voilà, que j'ai lu et qui est pas mal. Surtout le deuxième tome, le fou prend le roi, où on voit notamment la bataille de l'Écluse au tout début de la guerre de Cent Ans, et je décris quasiment tous les morts de ces personnages un peu du commun, quasiment un à un. Mais on voit aussi les chevaliers, mais voilà, on voit vraiment tout le monde et d'accord. Et puis une dernière chose là-dessus, également, il ne faut pas oublier que la piétaille, elle avait aussi, ok, effectivement rarement, mais la possibilité de progresser dans la société. C'est-à-dire qu'une partie des chevaliers était issue de cette piétaille, entre guillemets, progressivement, souvent en deux, trois générations, si c'était, voilà, on avait des familles comme ça de combattants qui petit à petit pouvaient intégrer la noblesse et la chevalerie à leur tour en ayant accompli des faits d'armes sur les champs de bataille. Donc oui, c'est vrai, cette piétaille, elle est aussi très très importante, mais on a effectivement relativement peu de sources dessus.
Une ultime question pour une dernière minute. Je vous en prie.
Les montrer, c'est juste pour flatter les instincts pervers des spectateurs. La réalité historique, elle est là. Quand une ville est pillée, toutes les femmes sont violées. Hein. C'est tout. Et les paysannes, sur le passage d'une armée, elles ont intérêt à se cacher.
Moi, j'ai deux, trois choses à dire là-dessus. Effectivement, le viol, malheureusement, fait partie de la guerre, mais dans la mesure où des individus à qui on donne des armes et un pouvoir absolu sur les gens qui sont en face peuvent complètement dérailler et l'utiliser de manière absolument ignoble et immonde. Et ça, forcément, la guerre porte ces excès. Après, ça peut, dans certains cas, être traité de manière quasi humoristique. Je pense à Bayard, on viole, et puis finalement, on s'attache. Ce film, quelqu'un peut m'aider Sans peur et sans reproche. Sans peur et sans reproche. Donc parfois ça peut être traité de manière humoristique, mais c'est évidemment une chose ignoble. Mais c'était pas uniquement en temps de guerre. Colette Beaune, par exemple, montre que à Dijon, on a quasiment la moitié des filles ou des femmes de Dijon qui ont été violées en temps de paix. Voilà, avec des problèmes importants autour de ça. Donc
Et ça n'est pas qu'en temps de guerre et ça n'est pas qu'à l'époque médiévale. J'ai cru comprendre que du côté de l'Ukraine, il est en train de se passer des choses pas très jojo de ce côté-là non plus. Hein. Donc ça fait partie des pratiques de guerre, quelle que soit la période.
Oui, peut-être. C'est une tradition, ça va, alors. Mais quand même. Et alors, je suis désolée, je vous vois pas, mais je suis là-bas derrière. Oui, alors le problème, c'est qu'en temps de guerre, c'est des choses qui vont être très difficilement punissables parce que bah, globalement, il y a d'autres choses à gérer, j'ai envie de dire malheureusement. En revanche, on a des sources qui nous montrent qu'on a des viols, y compris des viols conjugaux, qui sont punis par la loi au Moyen-Âge. C'est pas simple, clairement, mais j'ai envie de dire que ça ne l'est toujours pas aujourd'hui non plus. Donc voilà, le Moyen-Âge a des problèmes de violence, mais on n'en est toujours pas forcément sorti. Voilà, c'était le mot positif de la fin.
Ouais. Ouais. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que les règles de chevalerie ont été petit à petit mises en place. C'est pour ça que l'Église a mis justement la paix de Dieu, la trêve de Dieu, le droit d'asile. C'est pour ça qu'il y avait tout un travail, alors évidemment contraignant, pour mettre des carcans moraux, pour essayer de juguler la bête qui était dans l'être humain finalement. Ça fait partie de cette évolution qui est très peu scénarisée, mais qui est une évolution sur le long cours au Moyen-Âge.
Merci beaucoup pour toutes vos questions. Et merci bien évidemment nos quatre historiens et auteurs d'avoir pu parler de la guerre et l'histoire de la guerre et l'imaginaire autour de la guerre au Moyen-Âge. Merci beaucoup à tous. Merci.
Alors quand même, une dernière chose.
Et la guerre, c'est mal.
Eh oui. Ne faites pas ça chez vous.